Philosophie éthique, 25 janvier 1983, Raymond, Père Philippe.
Petite question. Par rapport à ce que vous disiez sur le choix que l'on peut faire au niveau de l'ami, ce choix étant comme un troisième moment après le premier amour et l'intention de vie. Je me suis demandé s'il n'y aurait pas là quelque chose qui concerne le mariage en tant qu'il donne à l'ami un statut particulier, unique et définitif. On voit beaucoup de couples qui refusent le mariage, n'étant pas croyants, ils n'ont pas de raison de se marier religieusement et ils n'accordent aucune valeur au mariage civil. Même si leur amour est un véritable amour spirituel, ne peut-on pas dire qu'il leur manque quelque chose pour atteindre toute sa plénitude, toute sa force? Pourriez-vous préciser quelle est la valeur morale du mariage civil ? Idéalement, et dans l'état actuel des choses, où l'on peut mettre en doute la valeur morale du système de loi en France. Bon, je voulais revenir là-dessus, hein, parce qu'on m'avait posé une question, je voulais revenir là-dessus, alors ça, c'est très bien. Ça rejoint exactement. C'est le point de vue du bien, le point de vue de la fin, et le point de vue du moyen, entre parenthèses. Voyez bien. Les trois couches successives où le volontaire, où la volonté s'explicite en un premier amour, secondement intention de vie, choix. Il est évident que ce n'est pas successif, hein, que tout s'intensifie. Que le choix volontaire et libre représente le moment où l'amour est le plus intense, parce qu'il est aussi le plus libre. Liberté et amour ne sont pas des moments successifs, mais liberté et amour doivent permettre de faire que l'amour soit de plus en plus lui-même. C'est sûr, tant que nous sommes ici sur Terre, le point de vue de la lucidité de l'amour implique le point de vue de la liberté. Et le point de vue de l'intelligence au service de l'amour permet à l'amour d'être plus libre. Alors, c'est dans l'analyse où nous faisons cela. Et l'analyse implique cela, ça c'est bien évident. Elle implique ces trois aspects. Et tout ça, c'est l'analyse. Ceci est vrai pour le mariage, ceci est vrai pour toute amitié. Mais évidemment, pour le mariage, ça prend un caractère particulier. Alors on pourrait, je suis parti exprès d'amour d'amitié, non pas d'amour du mariage. Vous comprenez pourquoi? Parce que, de fait, l'amour d'amitié demande ce lien avec l'ami qui, dans le mariage, va prendre un caractère spécial et particulier. Alors, je reviendrai après pour le mariage civil. Hein. Parce que là, il y a un point de vue politique qui intervient. Et donc, le point de vue politique n'intervient pas directement dans le point de vue de l'amour d'amitié. Parce que l'amour d'amitié, par définition, est au-dessus du bien commun. Ce qui est très important à comprendre. C'est au-dessus du bien commun. C'est le bien commun, l'État n'a pas à intervenir sur mes amis. Heureusement, voyez, si Mitran était là pour intervenir pour mes amis, ce serait plutôt ennuyeux, parce qu'alors je ne sais plus comment je choisirais. Il n'intervient pas. Au point de vue du bien commun, au point de vue des allers-retours du TGV, ben, c'est très bien, Mitran peut intervenir. Mais ça, c'est l'ordre de la communication, c'est l'ordre des moyens. Mais tandis quand il s'agit de l'ami, c'est très différent. C'est un autre ordre, parce que c'est personnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ce qui m'intéresse ici, parce que je crois que ce serait très intéressant à voir, ça n'a pas été très vu, cela. Même avec Aristote, c'est normal. Hein. Au fond, c'est tout à fait normal que le point de vue d'un traité sur l'amour au point de vue d'amour amitié soit plus poussé que ce que dit Aristote. Parce que nous sommes plus mûrs, n'est-ce pas ? Le christianisme a donné à l'homme une dimension de profondeur plus grande dans sa capacité d'aimer. C'est toujours sa volonté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ami, il est mon bien, c'est sûr. Il est mon bien et c'est le bien personnel. C'est quelque chose qui implique l'attraction profonde de l'ami sur moi. Je le considère comme mon bien. Donc, quand je dis mon bien, celui qui est capable de me compléter, de m'achever, d'être ce qui pour moi est mon bien. Le bien, c'est ce qui me permet de sortir de moi et de réaliser en moi une force d'attraction. Le bien réalise pour moi une force d'attraction. C'est ça le propre du bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. Donc, ce qui exerce sur moi une force d'attraction. L'ami exerce sur moi une force d'attraction en tant qu'il est mon bien. Ça, c'est fondamental et c'est premier. Ça doit toujours exister. Deuxièmement, grâce à l'intervention de l'intelligence qui fait que j'acquiesce à cet amour et que j'acquiesce librement à cet amour, premier acte de liberté. La liberté présuppose toujours l'intelligence. Hein? Pas de liberté sans intelligence. C'est pour ça que ce premier amour, il y a une certaine intelligence, mais ce premier amour n'est pas libre. Il s'impose. Quelque chose qui m'attire, l'attraction du bien sur moi, est quelque chose de tellement fondamental que c'est au-delà de la liberté. Mais la liberté, ici, ce passage entre les deux, va me permettre de considérer que l'ami, mon bien, devient ma fin, c'est-à-dire qu'il mobilise en moi toutes mes forces. La fin, le caractère propre de la fin, à la différence de l'attraction, c'est de mobiliser mes forces. Donc, il nous. La fin, nous. La finalité. Le bien comme tel est au-delà de la finalité. Et il permet la finalité. S'il n'y avait pas cette attraction du bien, il n'y aurait jamais de finalité. C'est la différence entre la fin, l'intention de vie, qui regarde la fin, et le projet. Le projet, c'est l'ordre artistique. C'est de l'ordre du pas de gérer. C'est pas du tout la même chose. Hein. Bien considérer la différence entre les deux. Je dis que c'est très important, vous voyez. On contamine aujourd'hui constamment l'intention de vie par un projet. J'ai vu ça, par exemple, dans certaines reprises des constitutions. À la place de mettre intention de vie, on met projet. Ça n'a l'air de rien, mais la génération suivante, voyez ce que ça peut faire. Je suis persuadé, ceux qui ont intention, on dit, oh, c'est la même chose. C'est plus moderne de mettre projet. Oui, mais attention, qu'est-ce qui s'y glisse ? C'est que, justement, le projet ne présuppose pas le bien, alors que la fin présuppose toujours le bien. Alors, il y a l'attraction du bien, et puis il y a de considérer le bien comme fin. Et donc, mobilisation en moi de toutes mes capacités. C'est ça qui est important. C'est que je considère que celui qui m'attire doit être celui que je rejoins. Il y a le double mouvement. Je suis attiré. Et je réponds à cette attraction. C'est donc une réponse, l'intention de vie. C'est une réponse du sujet. C'est pour ça que le sujet est mobilisé quand il considère que ce bien est ma fin. C'est ma réponse. Je peux répondre librement en considérant que mon bien, c'est ma fin. Là, il y a vraiment le fait que tout ce qui et en moi comme capacité de vie va être noué. C'est noué, c'est mobilisé par le point de vue de la fin. N'est pas un vrai moyen, mais il y a le point de vue de la préférence. Je le considère comme celui que j'aime d'une manière unique. Alors ça, c'est le choix. Le choix est préférentiel. Tout choix est préférentiel. Donc tout choix va faire considérer que l'ami va être choisi comme celui que je choisis de préférence à tous les autres. Et ça, c'est l'aspect du moyen, vous voyez, qui n'est pas là le moyen, de fait. On dit le choix regarde les moyens. C'est vrai, mais le choix regarde aussi l'ami. Je peux choisir un ami. Et quand je choisis un ami, il y a donc quelque chose de nouveau, cette nouvelle liberté. Cette nouvelle liberté va permettre quelque chose de nouveau dans cet amour. Vous voyez, alors au fond, si on regardait, hein, on verrait que la structure d'un amour spirituel implique la limpidité de l'amour, la réponse dans la mobilisation de toutes mes forces, et à l'intérieur de cette réponse, un choix préférentiel qui donne un sort nouveau à celui que j'aime. Je le mets vraiment comme l'ami, c'est-à-dire la personne que je choisis de manière préférentielle. Et alors ça invite une liberté plus grande. Vous voyez, ce choix qui est à l'intérieur, qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne regarde plus l'ami de la même manière. Il y a trois regards sur l'ami, trois aspects différents. Alors on peut être plus sensibilisé à l'un ou l'autre, hein. Parce que les trois sont simultanés. Il ne faut pas croire, parce que je le choisis, qu'il n'y a plus de premier amour. Pas du tout. Il reste toujours mon bien. Il reste toujours ma fin. Mais il est celui que j'ai choisi. Et alors, quand il n'y a plus que le dernier moment, vous voyez, il y a un danger. Si vous séparez, hein, si vous concevez l'ami uniquement celui que j'ai choisi, à ce moment-là, il y a un très grand danger. Parce que, au fond, c'est moi qui t'ai choisi. Vous voyez l'aspect subjectif, hein? C'est moi qui t'ai choisi. Alors on le domine un peu. Maintenant, un moyen, on le domine. Tandis qu'au contraire, le bien, on est dominé par le bien. On est dominé par le bien. Le bien, c'est ce qui est la force d'attraction. Et donc, il faut l'équilibre des trois, au sens fort. Et c'est là où je comprends comment l'amour se structure lui-même profondément dans ces trois aspects. Les trois aspects qui sont impliqués dans l'ami. L'ami, c'est mon bien, c'est ma fin, c'est celui que j'ai choisi. Et les trois aspects sont là. Vous voyez ? Et ça me semble très important de bien saisir ces trois aspects parce que ça fait comprendre comment cet amour à l'égard de l'ami va de fait impliquer cette liberté, et c'est peut-être là où je peux comprendre comment, dans le choix, il faut que ce choix soit réciproque. Il faut que l'ami aussi me choisisse. Quand l'ami est mon bien, ben, ça ne m'inquiète pas, je ne dis pas du tout qu'il me choisit. Quand l'ami est ma fin, c'est moi qui choisis. Tandis que dans le moyen, il y a la réciprocité. Pour que l'ami soit vraiment celui que l'amour préférentiel, le choix, il faut qu'il y ait cette réciprocité. Et c'est dans la réciprocité que se réalise proprement et pleinement le choix. Vous voyez ? C'est important de voir à quel moment la réciprocité va jouer pleinement. Parce qu'il y a la réciprocité dans l'amour d'amitié. Il y a quelque chose de mutuel. Et ce n'est pas au niveau du bien, ce n'est pas au niveau de la fin, au niveau justement du choix. C'est au niveau du choix qu'il doit y avoir. Ça ne veut pas dire que, vous voyez, on le choisit parce qu'on l'aime. Mais le choix est parfait parce que lui-même le choisit. C'est là où justement il y a la liberté plus grande qui se noue dans le fait que, à ce moment-là, mon amour porte sur celui qui me choisit. Et ça libère et ça donne une liberté plus grande. Donc, vous voyez les trois moments. Hein, je crois que ça, c'est très, très important à saisir parce que ça nous aide à entrer dans cette structure profonde de l'amour qui est à la fois extatique. Le premier moment est extatique. Quand l'ami est mon bien, il me fait sortir de moi. Mais l'ami aussi, c'est celui que j'accueille, le choix. Et souvenez-vous, hein, des dimensions profondes de l'amour. Hein. Et les 10 dimensions profondes de l'amour, nous devrions les reprendre ici en comprenant comment il y a ces 10 dimensions et cette structure profonde de l'amour d'amitié. Alors ce n'est plus l'amour, c'est l'amour d'amitié. Mais l'amour d'amitié doit présenter l'amour dans ce qu'il a de plus amour. Aucun amour n'est autant amour que dans l'amour d'amitié. L'amour d'amitié représente le sommet de l'amour. C'est pas ce premier moment qui est sommet. Le sommet, c'est dans le choix. C'est là où l'amour est le plus spirituel, c'est là où l'amour est le plus libre, c'est là où l'amour peut réaliser de la manière la plus parfaite son aspect extatique. Donc, autrement dit, ces trois moments, ce ne sont pas une dégradation. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut bien faire attention que le choix qui présuppose hein, entre deux, il y a le conseil, il peut y avoir une délibération, mais le choix n'est pas une conclusion du conseil. Il faut bien comprendre la qualité de ce choix qui porte sur l'ami, qui fait c'est dépasser le choix du moyen. Dans le choix du moyen, le point de vue du conseil joue un rôle plus important. Le point de vue de l'information joue un rôle plus important quand il s'agit d'un choix à l'égard d'un moyen. Vous choisissez un bon outil. Demandez aux gens compétents. Mais quand vous choisissez un ami, vous ne dites pas demandez aux gens compétents. Mais c'est tout à fait différent. L'aspect intelligence est beaucoup plus présent dans le choix qui porte sur les moyens que dans le choix qui porte sur l'ami. Parce que dans le choix qui porte sur l'ami, en définitive, c'est que l'ami est mon bien et c'est pour ça que je le choisis. C'est même pas parce qu'il est ma fin. C'est parce qu'il est mon bien. Ça va encore plus loin. Et il est mon bien. C'est à cause de ça. Alors il est en même temps ma fin. Ça, j'espère que vous voyez bien ces trois dimensions. S'il y a là des difficultés, il faudrait y réfléchir parce que je crois que c'est très important ça. C'est très important parce qu'on ne le montre pas assez d'habitude. Vous voyez, dans l'acte humain habituellement, parce qu'on étudie l'acte humain indépendamment de l'amour d'amitié. Et alors on l'applique après. Alors qu'il faut au contraire étudier l'acte humain philosophiquement. Ça n'empêche absolument pas l'analyse que fait saint Thomas au point de vue théologique. Mais ici nous sommes en philosophie. Et donc si on est en philosophie, on doit faire cette analyse à partir de l'expérience. Et non pas d'une manière, si vous voulez, un peu comme en théologie, c'est différent. On fait à partir de l'expérience et à l'intérieur de l'expérience. Donc à l'intérieur de l'expérience, j'ai bien ces trois aspects successifs. Alors, la petite question posée ici, on voit beaucoup de couples qui refusent le mariage. Je crois que beaucoup de couples refusent le mariage quand il y a un véritable amour préférentiel. Cet amour préférentiel va impliquer une fidélité. L'amour à l'égard du bien, l'amour à l'égard de la fin et la préférence implique la fidélité. La fidélité est impliquée dans la réciprocité. On est fidèle parce que cet amour est réciproque. Tant que l'amour est réciproque, il n'y a pas de fidélité au sens absolu. Et en même temps, fidélité et responsabilité. C'est sûr. C'est dans le choix que je découvre la fidélité et la responsabilité. Ce n'est pas dans l'intention de vie, ce n'est pas dans l'amour. C'est aussi très important de comprendre cela. Et on comprend la fidélité. Hein. On est fidèle parce que justement, on s'est promis l'un à l'autre. On s'est dit son amour. Tandis qu'avant, il n'y a pas cela au sens propre. La fidélité est au niveau du choix. Donc la fidélité est d'ordre, tout simplement, de l'ordre de l'amour. La fidélité est impliquée à l'intérieur même de l'amour. Un amour spirituel qui porte sur une personne et qui fait que l'autre personne reçoit cet amour implique la fidélité. Donc la fidélité peut se comprendre à l'intérieur même du couple. Il refuse le mariage, faisons attention. Il refuse le mariage. Il refuse le sacrement de mariage parce qu'ils n'ont plus la foi. Alors par loyauté, en dehors du point de vue conventionnel, ils disent, c'est pas la peine, nous nous aimons, c'est notre affaire. Alors, ça peut se comprendre chez ceux qui n'ont plus la foi. Il faudra leur faire comprendre petit à petit qu'est-ce que c'est que la foi. Parce que je suis persuadé que l'expérience même d'un amour d'amitié doit être le meilleur moyen de redécouvrir la foi. Parce que très souvent, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est l'occasion ici, très souvent, il y a chez des jeunes le refus de la foi parce qu'il y a un blocage entre tradition familiale et foi. Alors, ils sont en opposition vis-à-vis d'une certaine tradition familiale et veulent faire un acte libre qui soit un peu, on scandalisera peut-être un peu, au fond, après tout, c'est bien. Vous voyez ? Pour bien montrer qu'on est autonome et que nous faisons un acte parfaitement libre. C'est très bien. Mais pousser leur fidélité jusqu'au bout. Et montrer qu'à ce moment-là, que les traditions religieuses n'ont rien à voir avec la foi. N'ont rien à voir. Que les traditions religieuses chrétiennes sont des conséquences de la foi et non pas la source. Or, des jeunes veulent toujours remonter à la source, surtout s'ils s'aiment, ils comprennent que c'est le bien. Et alors, je crois, quand on est en face d'attitudes comme celle-là, il faut être très attentif pour ne pas, vous voyez, ne pas heurter et mettre les traditions avant la foi. Il faut au contraire essayer de reprendre la signification profonde de la foi dans une personne. La foi regarde une personne. Les traditions regarde un conditionnement, en premier lieu, une manière de vivre, tandis que la foi ne regarde pas en premier lieu une manière de vivre. La foi regarde en premier lieu une finalité, donc un bien, une personne. Et ça, c'est très important. Donc, on voit comment ils rejettent le sacrement, parce qu'ils ont fait cette confusion. Ils rejettent le mariage civil, parce qu'ils considèrent que ça ne signifie rien. Vous voyez qu'au niveau de l'amour d'amitié, ils ont raison. Au niveau de l'amour d'amitié, il ne s'agit pas de dire que le point de vue civil a une signification. Qu'est-ce qu'il va faire le point de vue civil? Est-ce qu'il va bénir leur amitié? Pas du tout, ça n'a rien à voir du tout. On est libre là-dessus. Ils ont raison. Parce que le point de vue politique n'intervient pas au niveau de l'amour d'amitié. Le point de vue politique interviendra au point de vue de l'institution de la famille. Pour que, de fait, les enfants aient une situation sociale reconnue. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas au niveau de leur amour, c'est au niveau des enfants. Il faut bien faire porter les arguments là où ils doivent porter. Hein. Parce qu'autrement, on met dans l'irritation et c'est pire que tout. Alors, il s'agit de comprendre. C'est par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, alors, c'est du reste presque toujours comme ça que ça se situe. Vous n'avez qu'à regarder attentivement. Ceux qui sont mariés comme ça, union libre, on n'a rien dit. Puis alors, les enfants, alors, point de vue social. Alors, à ce moment-là, on comprend le point de vue civil qui intervient. Oui. Mais c'est au niveau des enfants. Donc c'est au niveau de la famille comme telle, et pas au niveau proprement de leur amour. Donc vous voyez bien les deux aspects. Hein. Ça ne veut pas dire que je l'approuve, hein, faisons attention. Vous allez dire, donc, philosophiquement, vous approuvez l'union libre. Non. Philosophiquement, je ne dis pas que j'approuve l'union libre. Je dis tout simplement que philosophiquement, je comprends la réaction qu'il peut avoir. Il faut être intelligent pour ses frères et les aider à redécouvrir la foi en étant intelligent pour eux. Dans une attitude de réaction vis-à-vis d'un conformisme, vis-à-vis de traditions religieuses qui s'imposent, traditions familiales, il faut être intelligent et repenser la foi. Et comprendre que quand il y a un véritable amour avec fidélité, alors ça c'est très important, il faut comprendre qu'un véritable amour implique une fidélité. Parce que c'est la personne qui est engagée dedans. Et donc si c'est la personne, c'est un absolu. Et c'est un absolu, c'est un amour. Un amour qui est, vous voyez, l'amour libre, donc impliquant le point de vue succession, n'est pas un véritable amour à l'égard de la personne. Je peux aimer successivement des outils différents en attendant le modèle suivant. C'est tout à fait normal. J'ai actuellement la dernière auto qui sort du salon, très bien, c'est très bien. J'attends le salon suivant pour pouvoir voir si ça va continuer ou pas. Ça, c'est normal dans un amour qui regarde le point de vue des moyens. Parce que les moyens sont relatifs. Mais un amour qui regarde une personne a quelque chose d'éternel, a quelque chose d'absolu. Il ne faut pas ramener la personne à un outil. Si perfectionné que soit cet outil, si splendide que soit cet outil, je n'ai pas le droit. Et donc je dois regarder la personne. Et aimant la personne, alors il y a cette préférence, il y a cette fidélité, il y a cette responsabilité. Bon. Alors, il faut comprendre qu'un véritable amour va donner le sens de la fidélité et de la responsabilité. Ça, c'est très vrai. Et à partir de là, je suis tout proche, humainement parlant, de ce que représente la redécouverte d'une vraie foi. C'est cela qui m'est le plus proche d'une véritable foi, qui du reste très souvent n'a pas disparu. On a rejeté des traditions, on n'a pas commis de faute contre la foi, c'est différent. Et la foi reste entre parenthèses, on ne l'exerce plus. Très très souvent c'est comme ça. Bon, c'est rare les gens qui vraiment ont péché contre la foi. La plupart du temps, c'est une mise entre parenthèses. Donc on ne l'exerce plus. Alors il faut à ce moment-là comprendre qu'une un véritable amour mutuel, d'où naît la fidélité et la responsabilité, mais les deux très proches, humainement parlant, les plus proches, de redécouvrir une vraie foi. C'est ordinairement par l'amour qu'on redécouvre la foi, plus que par des raisonnements intellectuels. Il ne faut pas négliger les raisonnements, il ne faut pas négliger la métaphysique. Donc, mais il faut bien comprendre que ordinairement, c'est plus l'amour, un véritable amour qui nous dispose plus immédiatement à la foi, parce que la foi est une connaissance affective. Si la foi est une connaissance affective, c'est l'amour qui m'est le plus proche. Et ensuite, la métaphysique. J'ai rencontré hier quelqu'un, c'était très gentil, très, très, très sympathique, quelqu'un que je ne connaissais pas, c'était au cours de philosophie, le soir, qui à la fin du cours est venu dire, mon père, je tiens à vous dire que vos cours de votre livre sur l'être m'a beaucoup aidé à revenir à la foi. Tant mieux, au moins ça m'a servi à quelque chose. Parce que je l'ai travaillé, ça m'a beaucoup intéressé, et au fond ça m'a beaucoup aidé. Des tas de choses qui sont tombées parce que intellectuellement j'ai compris. Vous voyez, de la réflexion peut mener, et c'est très vrai, ça enlève les obstacles ordinairement. La métaphysique enlève les obstacles, si on fait ça loyalement. Et l'amour dispose. Alors les deux,
Les deux doivent nous aider à redécouvrir l'exercice de la foi. Parce que très souvent, je vous dis, dans notre monde d'aujourd'hui, très souvent, chez les jeunes, c'est une mise entre parenthèses de la foi. Ce n'est pas un rejet explicite, mais c'est une mise entre parenthèses. Ils ne comprennent plus. Ça n'a plus de sens, comme ils disent. Ça ne signifie plus rien. C'est vrai que constamment, ce n'est pas commode, parce qu'on ne leur a pas expliqué du tout ce que c'était que la foi, et c'est pour eux perdu dans les traditions familiales, perdu dans l'ennui de devoir aller à la messe le dimanche, l'ennui de devoir se confesser, l'ennui de... Vous voyez, un tas de choses comme ça. Enfin, donc c'est lié à des traditions religieuses, c'est lié à des pratiques. La foi n'est pas premièrement une pratique. Elle implique une pratique, mais elle n'est pas premièrement une pratique. Et donc il faut redécouvrir que la foi est quelque chose d'intérieur. Il ne faut pas se séparer, c'est bien évident, on n'a pas le droit de séparer. Mais quand il s'agit de redonner le sens de la foi, il faut faire comprendre que la foi n'est pas vraiment une pratique. Que la foi est une adhésion du cœur, de l'intelligence, dans le sens profond, à un mystère qui nous dépasse. Il y a une personne qui nous sauve. Alors vous voyez bien ces réactions, je crois que c'est très important de comprendre cela. Mais au fond c'est assez normal que des êtres qui s'aiment profondément, qui ont une très grande loyauté l'un par rapport à l'autre, n'ont aucune envie de se marier civilement. Ne cherchez pas, du reste, à leur dire qu'il faut se marier civilement. Ça signifie quoi? Mais quand il y a des enfants, à ce moment-là, il faut revenir. En disant, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux. Pour eux, pour les enfants, pas pour leur amour. Le maire n'a rien à voir là-dessus. Il n'a rien du tout. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais pour les enfants, pour l'institution du mariage, alors là, très bien. Mais avant ça, il faut beaucoup plus si on a affaire à des gens qui ont été baptisés. Leur faire comprendre qu'à partir de leur fidélité, à partir de leur amour, il y a peut-être quelque chose qui doit se découvrir de plus profondément, de plus profond. Bon, alors continuons. Si, par rapport à ça, vous voyez bien, hein, je crois que c'est très important de bien saisir ces trois moments, vous voyez, dans la structure même de ce que représente l'amour. Nous allons maintenant passer à quelque chose de tout à fait différent. Oui, dites. Ah, le choix de l'ami et la réciprocité. Oui, parce que c'est une préférence. C'est à cause de ça, vous voyez. Je ne peux préférer vraiment quelqu'un et que l'exercice de cette préférence puisse s'exercer que si l'autre, lui-même, a la même préférence. Oui. C'est dans l'ordre de la préférence. Parce qu'au fond, vous voyez, c'est le point de vue de la liberté et l'intelligence qui est plus présente dans ce choix. Le choix, la proie irrécie, c'est à la fois intelligence et volonté. Alors il faut, pour que la liberté puisse être tout à fait libre, qu'on porte sur quelqu'un qui veut choisir aussi. Oui, c'est à cause de ça. C'est donc à l'intérieur même du choix et de ce choix de préférence qui peut s'expliciter parfaitement. Alors, c'est très délicat, c'est rien, c'est du chuc. C'est du conditionnement. On va décoller. Alors, il faut comprendre que le fait que l'autre choisit ne détermine pas, mais conditionne. Et alors, c'est justement là la réciprocité. Je ne choisis pas l'autre parce qu'il m'a choisi. Parce qu'alors, à ce moment, ce serait plus d'amour. Vous voyez ? Choisir l'autre parce qu'il m'a choisi, ça ne va plus. L'amour, oh non, non, ne dérangez pas, laissez le ronflement, ça n'a pas d'importance. Ça ne nous dérange pas du tout, ça fait une petite variété de temps en temps. Tandis que eux, ça les dérange, je sais pas. Le point de vue intellectuel doit être plus souple. Ils sont, vous savez, l'art, c'est déterminé à l'humour. Tandis que nous ne sommes pas déterminés à l'humour, nous pouvons avoir un peu de souplesse intellectuelle. Alors, ça exige un peu plus d'attention, et c'est pas mauvais. La perforeuse, c'est du reste très très intéressant, parce que c'est tout ce qui pénètre nous avons. Alors, c'est le choix réciproque. Ça pénètre plus avant. Alors, moi, je viens que le fait, dans le choix réciproque, ça ne détermine pas. Celui qui dit « je ne t'aime plus parce que tu ne me choisis plus », c'est faux. Ça prouve que tu m'as jamais aimé. Ça n'a jamais aimé. Ça, c'est très significatif. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous a choisi. On l'aime pour lui-même. Ça, c'est capital, je vous l'ai déjà dit, c'est capital, ça, de bien comprendre ça. Puisque la moitié des divorces proviennent de ça. Proviennent de ça, parce qu'il suffit tout simplement que l'autre soit un peu fatigué. On va pas l'aimer moins parce qu'il est fatigué. Je ne t'aime plus parce que tu es fatigué. Alors quoi? Et tu as cru m'aimer? Mais pas du tout. Le bien peut être fatigué. Il peut se payer ce luxe, parce qu'il est le bien. Alors, il peut être fatigué. Alors, quand vous regardez les modalités, vous êtes dans le conditionnement. Je t'aime plus que tu ne me choisis plus. Non, attention. L'amour porte sur le bien. C'est pour ça que j'ai dit, il est présent, ce bien. Et c'est toujours le bien qu'on aime. L'amour, c'est toujours le bien. Mais l'intention, le choix, sont portés à l'intérieur même de cet amour et intensifient cet amour. Mais quelquefois, ça peut arriver psychologiquement, c'est qu'on préfère le choix à l'amour. Et alors à ce moment-là, j'ai instinctivement, et ça c'est alors quelque chose de très très particulier, je suis persuadé que des quantités de divorces proviennent de ça. Parce qu'on ne sait pas éduquer l'amour. Alors, quelle pédagogie à l'intérieur de l'amour? Il y a une grande pédagogie à l'intérieur de l'amour. C'est que c'est vrai, aimer le bien exige toujours un dépassement. Tandis qu'au contraire, quand il y a un choix mutuel, il peut y avoir un ronronnement mutuel. Alors, à ce moment-là, on n'aime plus. Et à ce moment-là, on est dépendant de la préférence, du choix de préférence de l'autre. Et quand on est dépendant du choix de préférence de l'autre, alors on s'harmonise à ce choix. L'autre m'aime moins, donc je vais l'aimer moins. Il apprendra comme ça. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Alors vous voyez, alors immédiatement, on descend. Ce n'est plus l'amour. Et alors c'est le choix. Et là, on tombe dans le point de vue psychologique. Parce que c'est vrai que le choix préférentiel est beaucoup plus conscient que le premier amour. Et donc psychologiquement, là j'en ai conscience. Mais je ne ramène pas l'amour au choix. C'est une modalité d'amour. Mais ce n'est pas l'amour. Or très très souvent, je ne sais pas, l'expérience qu'on peut avoir dans ce domaine-là, on s'aperçoit que très très souvent, au fond, c'est tout le temps ce point de vue du choix qui psychologiquement l'emporte. Dans le climat d'aujourd'hui, hein, où nous sommes dans un climat psychologique, dans un climat de réflexion psychologique, on stâte le pouls tout le temps. Alors, statant le pouls tout le temps, il dit, mais ah oui, ce matin, il m'aime moins. Il ne m'a pas regardé, il m'aime moins. Alors, immédiatement, ah, je veux l'aimer. Ben non, quoi. Est-ce que votre amour porte sur le bien? Et c'est ça la chose grande de l'amour, c'est de porter sur le bien et de ne pas porter sur le choix de l'autre. C'est pas le choix de l'autre qui détermine mon amour. Le choix de l'autre détermine mon choix. Oui, mon choix. Vous voyez? Ça c'est très vrai. Psychologiquement, il détermine mon choix. Il détermine par le fait même aussi ma liberté. mais il ne détermine pas mon amour. Alors si je ramène l'amour au choix, c'est fini. Et très très vite, alors, il y aura une diminution du capital d'amour. Vous voyez ? Alors, passons maintenant à quelque chose. Oui ? Que le oui, j'ai dit cette parole de saint Thomas, je vous ai cité cette parole de saint Thomas, que saint Thomas dit que la beauté est la disposition au mariage. La disposition à éveiller en moi un amour, mais ce n'est pas le beau que j'aime. Je suis séduit par le beau, et le beau n'exerce pas sur moi une attraction. Tandis que le bien exerce sur moi une attraction. Ce n'est pas la même chose, l'attraction et la séduction. Je suis séduit par le beau. Dans le beau, c'est la question de l'intelligence. Dans le bien, c'est mon cœur, c'est ma volonté. C'est très différent. Vous voyez ? Mais ça peut servir. Hein ? Ça peut servir. Il faut faire attention. Il faut le dépasser. Et la séduction, et j'aime beaucoup cette parole de saint Thomas, du moins je crois bien qu'elle existe dans saint Thomas. Oui, parce que je ne l'ai jamais redécouvert. Je ne crois pas que j'ai eu en rêve. C'est de toute façon très beau. Que la beauté est une disposition au mariage. J'aime beaucoup ça. Et je crois bien que je l'ai vu dans saint Thomas. Sans un réveiller. Alors si vous le trouvez, vous me donnerez la référence. Parce que c'est vrai, saint Thomas, on le vit, alors. Au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien ce qu'est de saint Thomas, ce qu'est de soi. Et c'est bien, du reste, c'est bien qu'il soit comme ça, si vous voulez. Parce que ça prouve qu'on est en conformité. Alors, ça, c'est vraiment l'autorité, vous voyez. On est tellement dedans, on est à l'aise, alors. On fait dire à l'autorité des tas de choses. Donc, la beauté, alors ça, c'est sûr, la beauté séduit. Tandis que le point de vue du bien, il attire. C'est la force d'attraction du bien. C'est pour ça que l'amour est extatique. Tandis que je ne dirais jamais que la séduction est extatique. La séduction ne me fait pas sortir de moi. Elle m'épanouit. Vous voyez, psychologiquement, je la comprends mieux. C'est très vrai. Psychologiquement, la séduction est plus proche que l'attraction, que l'extase. L'extase me fait aller au-delà du point de vue psychologique, tandis que la séduction me laisse dans l'immanence de la séduction. C'est merveilleux, la séduction. Être séduit, c'est extraordinaire. Il y a un plaisir d'être séduit. C'est sûr, il y a un plaisir, beaucoup plus que l'attraction et l'extase d'amour. Où je ne suis plus du tout moi-même. Où je suis au-delà, je ne m'arrête pas à la joie et au plaisir. Non, pas du tout. Je suis donné. Je ne m'écoute plus, je ne me regarde plus. Tandis que dans la séduction, je me regarde dans un miroir. C'est extraordinaire, ça, c'est propre de la séduction. Alors la séduction peut conduire à l'amour, être une disposition à l'amour, et la séduction peut devenir rivale de l'amour. Alors ça, c'est vrai. De temps en temps, la séduction devient rivale de l'amour. Parce que la séduction implique justement un primat de la connaissance. Tandis que dans l'amour, il y a un primat de la volonté. On est au-delà. Oui. Alors évidemment, le point de vue de la beauté joue surtout ici. La beauté, vous voyez, quand il y a un primat de la beauté, ça peut être encore un moyen de tourner vers la velléité. Quelqu'un qui m'attire par sa beauté, je reste exprès dans ce point de vue de la beauté. Beauté intérieure, beauté extérieure. Hein. C'est la beauté de l'âme, la beauté spirituelle. Alors on est ici. On est ici. Alors la séduction m'empêche de passer à l'attention de vie. Et là, il y a un certain dilettantisme. Et le dilettantisme, là, c'est le dilettantisme artistique, ce serait toute la, voyez, ce serait toute la morale épicurienne, elle est à ce niveau-là. crois que c'est la beauté qui attire tout le point de vue d'Épicure. C'est pas le point de vue de la bonté, c'est la beauté. Alors on cherche la jouissance. Et alors on traduit ça très mal en prenant la jouissance. On cherche la jouissance spirituelle. On est heureux. On est replié sur soi. Et on est heureux d'être séduit. C'est beau d'être séduit. On est...
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.